Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence dédiée à Chronique martienne, une œuvre des origines. Pour m'accompagner aujourd'hui sur ce plateau, je suis en présence de Gilles Menegado, qui est universitaire, spécialiste des littératures de l'imaginaire, si je ne m'abuse. Stéphane Manfredo, directeur de collection, spécialiste des littératures de l'imaginaire. Tu m'arrêtes aussi. Spécialiste de biathlon, c'est une grande nouveauté. Gérard Klein, éditeur, auteur, quelque peu mémoire de tout ce qui a été fait ces 50 dernières années en science-fiction dans le monde et surtout en France. Et Jack Ski... I'm sorry, but...
Jack Skillingstead.
Jack Skillingstead, qui remplacera Nancy Crest, qui ne pourra pas venir à cette conférence. Elle en est désolée. Et pour ceux qui ne sont pas anglophones, je tiens à préciser que derrière un des piliers verts sur ma gauche, il y a des casques pour suivre la traduction simultanée. Ray Bradbury est un peu une des figures mythiques de la science-fiction de ces 50 dernières années. Il nous a quittés malheureusement en juin dernier. Mars est une planète qui a connu une longue histoire, une histoire prolifique en termes de science-fiction, mais aussi de recherche scientifique. On pense par exemple à l'atterrissage de Curiosity sur Mars ces derniers mois, avec toutes les recherches que cela implique et toute la communication scientifique qui en découle. Juste pour petite anecdote, le site d'atterrissage de la sonde Curiosity porte le nom de Bradbury. Mais avant toute chose, pour ceux qui ne connaissent pas Bradbury, comment le définirez-vous? Et qui peut revenir sur qui était Bradbury?
Oui, Gérard. On se tourne tous vers Gérard. Gérard.
Bon, si vous y tenez absolument, mais vous les autres ne pourront plus placer un mot. Je crois que ce qui a fait l'originalité, la force de Ray Bradbury, à partir, si je ne me trompe, de la fin des années 1940, c'est que contrairement à la plupart des écrivains américains de science-fiction, il avait une vraie culture littéraire et il a beaucoup appris auprès d'écrivains précédents. Je pense en particulier à deux écrivains de littérature générale, John Steinbeck et William Saroyan. Et probablement il y en a d'autres, hein, mais enfin, ces deux-là m'ont toujours particulièrement frappé parce qu'on retrouve dès les premières œuvres de Bradbury, et tout particulièrement dans les chroniques martiennes, des techniques littéraires qui n'étaient peu ou pas utilisées dans la science-fiction américaine de l'époque et qui étaient celles de Saroyan, un auteur injustement un peu oublié aujourd'hui, et John Steinbeck qui, lui, ne l'est pas. Alors Saroyan a été un très grand écrivain de nouvelles. Pendant toute une partie de sa vie, il s'est astreint, en tout cas c'est ce qu'il racontait, à écrire une nouvelle par jour. C'était des nouvelles assez courtes, qui n'étaient pas des nouvelles à chute, mais qui décrivaient un moment, un instant, un lieu, qui créait une atmosphère. Et c'est ce que Bradbury a compris et a largement repris dans ce qu'il a écrit. Il y a probablement aussi l'influence d'un auteur également remarquable et également injustement un peu oublié aujourd'hui, qui est John Collier. Enfin, je dirais surtout John Steinbeck pour la proximité avec les humains et William Saroyan pour un certain nombre de façons de faire, enfin de façons d'écrire. Et ça a changé de façon durable le panorama, enfin le visage de la science-fiction américaine et par extension de la science-fiction mondiale.
Je peux rajouter quelque chose peut-être. Je pense que c'est très sensible dans les chroniques martiennes et dans d'autres aussi. Je crois qu'il y a quand même l'influence, en particulier pour la structure, par exemple, des chroniques martiennes, d'un auteur qui est peut-être pas très connu, sinon des spécialistes de littérature américaine, c'est Sherwood Anderson, qui est un écrivain qui, donc, du côté du réalisme, voire parfois du naturalisme, en même temps aussi très... une dimension symbolique très forte, et donc qui a, je pense, inspiré Bradbury pour la structure de son œuvre, puisque c'est à la fois, ce sont des nouvelles qu'on peut lire de manière autonome, mais en fait c'est aussi un tissu de nouvelles extrêmement complexe, une construction très sophistiquée, avec des nouvelles longues, des nouvelles courtes, des nouvelles très très brèves, qui servent un petit peu de transition entre différents épisodes. Et je pense que bon, Sherwood Anderson est certainement un des auteurs. Bon, c'est l'inventeur de ce qu'on a appelé c'est l'un des inventeurs du grotesque américain. Donc ces personnages sont des figures effectivement grotesques, mais pas grotesques au sens ridicule, au sens attachant, marginal, différent, disons. La question de la différence, je crois, est au cœur aussi des chroniques martiennes. Et Sherwood Anderson, c'est aussi l'écrivain de la petite communauté, de la petite ville. Et donc c'est assez frappant de voir qu'il est question bien sûr des villes martiennes, mais il y a aussi question de communauté, de petite communauté. Donc ça fait écho, je pense, à une dimension pastorale aussi d'ailleurs qu'on trouve dans les nouvelles de Sherwood Anderson et en particulier dans ce livre-là. Et puis bon, mais ça on y reviendra sans doute. Je pense que l'autre grande figure tutélaire pour Bradbury, c'est Edgar Allan Poe. Auquel est rendu un très vibrant hommage, je dirais, dans le roman, dans un texte qui est dans une nouvelle qui est intitulée Usher 2, hein, Usher 2, bien sûr référence directe à la chute de la maison Usher d'Edgar Poe. Voilà, bon, je m'arrête là pour l'instant, mais juste pour complément.
The Martian Chronicles was sort of a fix-up novel for Ray Bradbury. Most of those stories had already appeared in the pulp science fiction magazines of the day. And he sold this idea to a New York publisher of linking these stories and writing connective material between them to draw it together. For me, it never really worked as a novel because it wasn't conceived as a novel. But the point of interest with Bradbury was his incredible and unique style of writing, his way of things. And you mentioned Sauron and Steinbeck, but I never think of those guys as major influences on his presentation. I don't know who I would compare him to, but I know one thing he brought to American science fiction of the time was he was influenced by Dickens and Shakespeare and poetry and major literature as well as science fiction. He read a lot of science fiction at the time, but he started out publishing in Weird Tales, writing... strange tales and horror stories and the rest of it, but they were unlike anything anybody else was writing, and that's what brought him above. I think he worked harder than anybody I've ever heard of to develop an individualistic way of presenting his vision, and this carried him from pulp writing to the major slick magazines of the day like Collier's and into major literary success transgenre. But he never, you know, he was always had one foot in genre. He loved science fiction and fantasy, but he seemed to stride over it at the same time. He was a very interesting writer.
Oui, et je vais rajouter une ultime précision sur tout ce qui a été dit, c'est qu'il ne faut pas oublier aussi que la science-fiction des années 30-40 aux États-Unis, au moment où Ray Bradbury va publier ses premiers textes, donc la science-fiction qu'il lit, est une science-fiction souvent, ce sont des récits de littérature populaire. Alors, moi, je suis un grand défenseur de la littérature populaire, donc prenons-le au sens noble du terme, mais des récits souvent qui mettent l'accent sur l'action, sur l'aventure, sur la technologie, ce genre de choses, qui présentent leur intérêt de toute façon. Mais Ray Bradbury est quand même un écrivain qui va se démarquer de toute cette matière-là pour, comme l'a dit Gérard Klein, enfin comme tout le monde l'a dit sur le plateau déjà, pour introduire la littérature, pour introduire l'écriture littéraire dans la science-fiction. Et en fait, on peut même aller jusqu'à dire que Ray Bradbury, s'il écrivait de la science-fiction, a utilisé la science-fiction pour sa littérature. C'était pas juste un écrivain de science-fiction, c'était un écrivain littéraire qui s'est approprié la science-fiction pour nourrir ses problématiques, pour nourrir son écriture. Et d'ailleurs, il a écrit beaucoup de nouvelles de science-fiction, il est vrai, quelques romans, on le sait. Il a aussi écrit beaucoup de pièces de théâtre. Hein, il était quand même assez touche-à-tout. Je crois même qu'il a écrit des recueils de poésie, si je me souviens bien. Je me tourne vers Gérard. Au point qu'il ait même eu, avec le théâtre principalement, il a son étoile sur le boulevard, vous savez, à Hollywood. Il a son étoile pour sa contribution au théâtre. Donc, quand même, le seul auteur de science-fiction qui se démarque vraiment du lot de cette manière-là. Et pour conclure... Sur cette première intervention de ma part, il faut penser également que Ray Bradbury est un auteur qui finalement est devenu un classique de son vivant et qui échappe au domaine de la science-fiction. Aujourd'hui, dans les prescriptions scolaires depuis plus de 20 ans, on a les chroniques martiennes. Vous voyez, c'est, quand on parle de les chroniques martiennes, à la limite, on oublie presque qu'il s'agit de science-fiction. C'est de la littérature. C'est juste de la très bonne science-fiction, très bien écrite et qui nous touche profondément.
Juste rajouter une chose par rapport à la palette de talents de Bradbury, c'est aussi le scénariste d'un film célèbre de John Huston, Moby Dick. Ça montre aussi, bien sûr, son intérêt pour la grande littérature américaine, notamment celle de Melville, qui est un des plus grands écrivains américains. Voilà, donc Bradbury était passionné de cinéma. Il y a énormément de références cinématographiques dans son œuvre, et en particulier dans les chroniques martiennes. Bon, on y reviendra sans doute.
Stéphane nous disait il y a à peu près 2 minutes que parfois les gens oublient que les chroniques martiennes se passent sur Mars. Mais qu'est-ce qu'il fait que le développement de Mars en tant que tel ait vraiment marqué les esprits dans la littérature? Est-ce que Mars a été beaucoup utilisé par le passé? Mais pour vous, qu'est-ce qui fait la différence et la distinction de sa vision martienne et de l'intemporalité de la planète Mars qu'il décrit?
Je crois que le Mars de Bradbury, qui ne correspond absolument pas évidemment au Mars réel, même et surtout dans l'état des connaissances de l'époque, qui ont énormément changé en plus depuis. Précisément, le Mars de Bradbury avait deux caractéristiques importantes. La première, c'est que ça correspondait aux représentations populaires qu'on se faisait de Mars depuis, disons, la fin du 19e ou le début du 20e, avec ses canaux, enfin, etc. Donc, il n'y avait pas de grand bouleversement dans ces histoires. Et la deuxième, au fond, c'est que Mars est une autre Terre, c'est une nouvelle Terre, à la fois plus vieille et plus jeune, en ce sens qu'elle est à coloniser. Ça ne se passe pas très bien dans les... Enfin, c'est une frontière ouverte. Alors, je crois que ces deux thèmes, le fait que c'était une image de Mars qui était tout à fait traditionnelle, même si elle était largement fausse, et d'autre part que c'était une autre Terre, ça a aidé à la facilité avec laquelle le public a admis cette représentation.
Je voulais simplement, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Gérard. Je pense qu'il y a aussi une prise de position différente, enfin, par rapport à un des grands auteurs, H.G. Wells, qui donc en 1895, quelque chose comme ça, 1897 peut-être, publie La Guerre des Mondes, où les Martiens sont présentés comme 1897, pardon. Qui publie La Guerre des Mondes, et où effectivement les Martiens sont représentés comme des envahisseurs de la Terre, des êtres monstrueux, des êtres vampiriques, hein, puisqu'ils absorbent le sang humain. Vous avez pu voir ça dans certaines adaptations filmiques, dont certaines se passent ici d'ailleurs. On peut dire que Bradbury prend le contre-pied total de ça, même si les Martiens peuvent avoir des côtés effectivement ambigu, ambivalent, malgré tout, on a l'impression que le point de vue, enfin, disons, la sympathie de l'auteur, au sens du narrateur, d'auteur, va du côté des Martiens. Et les Terriens sont présentés, comme l'a dit très justement Gérard Klein, comme effectivement des gens qui vont coloniser une terre qui pourtant est une terre bien plus ancienne et bien plus. La civilisation est beaucoup plus sophistiquée. Ce qui se traduit dans l'architecture, dans aussi le motif du livre qui est très fondamental dans le roman, enfin disons dans le recueil de nouvelles. En particulier, on insiste sur, il y a énormément de références, je pense, aux civilisations anciennes, et notamment aux civilisations orientale comme l'Égypte, par exemple. À un moment donné, il est question dans une nouvelle de la manière dont les colonisateurs terriens donc, vont littéralement renommer les lieux martiens, même si certains archéologues pourront faire des recherches sur les véritables noms martiens. Mais enfin, l'idée, c'est quand même de remplacer les noms martiens par des noms terriens. C'est ce que faisaient dans la civilisation égyptienne les différentes dynasties qui effaçaient les cartouches, qui martelaient les cartouches pour les remplacer par les cartouches du nouveau pharaon. Et la métaphore du marteau, justement, est très importante. Le marteau et les clous. Les terriens viennent avec des marteaux et des clous pour transformer Mars et pour effacer en quelque sorte en partie la culture martienne.
Je vais rebondir sur ce qu'ont dit Gérard et Gilles pour aller dans le même sens qu'eux. Ce qui est intéressant aussi dans les chroniques martiennes, c'est que dans un sens, c'est peut-être le premier grand récit de terraformation, c'est-à-dire comment rendre une planète identique à la Terre pour pouvoir l'habiter, sans vouloir donner son nom. Ça ne parle pas du tout de terraformation. Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est la dimension poétique, la dimension méditative de la description de cette implantation, entre guillemets, tranquille des humains sur Mars, les martiens disparaissant tranquillement. C'est l'extinction d'une espèce, hein, c'est un génocide avec, les maladies qu'on amène, les bactéries, etc., dans l'indifférence générale, comme s'il n'était qu'une espèce d'arrière-plan un petit peu gênant pour les terriens parce que ça les empêche de temps en temps de faire ce qu'ils ont envie de faire parce qu'il y a des ruines martiennes et autres. Il y a ce côté justement méditatif et poétique dans la cruauté dont peut faire preuve l'humanité qui rajoute une dimension au texte. Et c'est évidemment une critique, à la fois une critique de la société américaine, des sociétés occidentales en général, de tout ce qu'on peut faire. Après, il y a une autre dimension qui est intéressante aussi, c'est le contexte littéraire dans lequel les chroniques martiennes s'inscrit, puisque Mars est, moi j'ai tendance à dire dans ces cas-là que Mars est la planète la plus visitée de la science-fiction. Ça commence déjà dans la mythologie où on a des Luniens, enfin des Sélénites, on a des habitants sur Mars. Hein, la mythologie peuple à peu près toutes les planètes du système solaire. Donc déjà il y a une tradition. Notre imaginaire. Il y a une tradition de notre imaginaire dans laquelle s'inscrivent les auteurs. Et ce que va faire la science-fiction de la planète Mars est totalement différente. Et en l'occurrence, Ray Bradbury s'inscrit donc à la fois dans le prolongement d'Herbert George Wells dans La Guerre des Mondes, puisqu'on retrouve cette dimension, puisque La Guerre des Mondes d'Herbert George Wells est une critique de la colonisation par l'Occident des pays lointains, et il le dit dans la préface, hein, il écrit ça suite à la disparition dans l'indifférence générale des Tasmaniens suite à l'arrivée des Anglais. Donc là, ce sont les Martiens qui viennent sur la planète et qui nous font mourir. Et c'est ce qu'on voit chez Ray Bradbury. Et l'autre substrat dans lequel s'inscrit les chroniques martiennes, c'est un substrat beaucoup plus, beaucoup plus exotique, excusez-moi. Par exemple, toute la tradition qui va culminer dans les textes d'Edgar Rice Burroughs, hein, le cycle de la Lune, le cycle de John Carter, le cycle de Mars. Je crois que c'est John Carter qui est sur Mars. J'ai eu un doute là d'un instant, où là on a une science-fiction complètement exotique avec des peuplades en pagne, avec des grandes plumes, et de la technologie, des lasers, etc. Et on a ce texte de Ray Bradbury qui est un texte méditatif et qui ne fait que montrer la société occidentale telle qu'elle est. C'est un texte très 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 critique sur les sociétés occidentales, tout simplement.
I think all that's true, although there's a significant difference between Wells and Bradbury. Wells was a highly intellectual writer, and Bradbury, complete opposite. He's a highly emotional writer, and I think the reason that we love his stories and remember them isn't because of his ideas so much or his intellectual concepts or any of that. It's the sensuality of the stories and the way that he melds the sensuality of physical reality with language, which is something that isn't often done in science fiction, but it was done to such a overpowering degree in Bradbury. And I think he did to Mars exactly what he did to his hometown of Waukegan, Illinois, that he transformed to a green town in Dandelion Wine, which was also a fix-up novel, taking a lot of his Greentown stories, writing connective material that brought it together to make a novel, although in my mind Dandelion Wine functions more successfully as a novel than Martian Chronicles. Greentown doesn't exist anywhere except in the imagination of Ray Bradbury, and the Mars that he conceived of, it obviously has nothing to do with the actual planet Mars, but it doesn't really have much to do with Edgar Rice Burroughs or H.G. Wells or any of the others. He was able, through the filter of his imagination, to create a new place, and we're going to call it Mars, but we think of it as Bradbury Land. We're going to Mars, we're going to Bradbury Land, we're going to this small Midwest town. We're not really going to a real small Midwest town. We're going to the town as conceived by Ray Bradbury. He did this in The Illustrated Man, too, another fix-up novel of Link short stories. I don't think he was that comfortable writing at novel length. He only did it a few times, although they're pretty successful. Something Wicked This Way Comes was originally a screenplay for Gene Kelly that he could never get off the ground. He decided to write it as a novel, somewhat based on his early work in Dark Carnival. And, of course, Fahrenheit 451, which was a very long short story that he expanded a little bit into a novel. But he wrote it like he wrote all of his short stories, at white heat, sitting down day after day without thinking about it much. In fact, he wrote it on a pay-per-minute typewriter in the basement of the public library in Los Angeles. He put a dime in, and that would buy him 10 minutes of writing, because he never had any money until later. He'd write for 10 minutes as fast as he could, and then pump another dime in and write. This is how he wrote the original version of Fahrenheit 451. And the only other thing I like to say about that is, in later years, he would be interviewed about this, and his novel was always presented as a warning for the future. The government is going to come and take our books. He says, there's nothing like that. I don't think the government's going to come and take our books. The danger is we're going to stop reading books. They don't have to take them away from us. And it was a very prescient novel in some ways, with the giant wall-sized televisions in the parlor and people interacting with their screens all the time and nobody reading anything, nobody doing critical thinking. To Bradbury, that's what his novel Fahrenheit 451 was about, the idea that books and ideas and literature would just vanish because people wanted just to entertain themselves 24 hours a day, which is approximately what we're doing now.
Si je peux rebondir là-dessus, parce que il me semble quand même que dans la nouvelle, justement, Achatou des Chroniques Martiennes, c'est un petit peu différent. C'est une volonté bureaucratique et morale, en quelque sorte, qui fait que les livres, à un moment donné, sont littéralement brûlés. Et d'ailleurs, ce motif de l'incendie des livres, on le retrouve bien sûr dans Fahrenheit 451. Donc, en fait, c'est pas. Il y a les deux possibilités, c'est que les gens effectivement ne lisent plus par paresse, on va dire, mais aussi que le système totalitaire que décrit Bradbury quand même, ce qui est devenu le système totalitaire sur la Terre et qui donc est exporté sur Mars en particulier. Fait que les livres n'ont plus d'utilité parce que les livres sont, par définition, immoraux, hein, parce qu'il y a des sujets tabous. Et donc, c'est ce que va faire le personnage de Asher II, c'est de construire c'est quelqu'un de fortuné qui donc fait construire une sorte de réplique de la maison Usher, donc une maison gothique avec énormément de pièges à l'intérieur, des créatures robotiques simulacres, donc c'est le motif du simulacre est très très important, et donc il va perpétrer une vengeance sur tous les bureaucrates qui ont interdit les livres et qui les ont brûlés. Bon, et donc par ce biais là bien sûr Bradbury rend hommage à Edgar Poe, non seulement en citant la chute de la maison Usher au début et à la fin, c'est une citation du texte de Poe qui ouvre et qui ferme la nouvelle, mais aussi en faisant une réécriture parodique, voire un peu humoristique, mais hommage évidemment, de toutes les nouvelles de Poe, et notamment le Masque de la mort rouge qui clôt le livre, avec un hommage indirect au cinéma, puisque à un moment donné, on parle de Lon Chaney, l'homme aux mille visages, c'est celui qui incarne le fantôme de l'opéra d'un film de Robert Julian de 1928 qui lui-même est une réécriture du Masque de la mort rouge. avec une scène célèbre où la mort rouge apparaît donc pendant une scène d'opéra. Voilà. Donc et ça, c'est ce qui est assez extraordinaire. C'est ça rejoint un peu ce que disait Monsieur tout à l'heure. C'est que Bradbury, il ne faut pas l'oublier, vient du fantastique et du gothique au départ, avant d'écrire de la science-fiction, et que la question même de la généricité du texte des chroniques martiennes, donc est-ce que c'est de la science-fiction, Bradbury se la pose lui-même en disant, bon, pour moi, il n'y a que, je crois, un texte, hein, c'est ce qu'il dit dans la préface, un texte qui relève vraiment de la science-fiction. Tout le reste, il parle plutôt d'insolite, dont ce que les Anglais, peut-être après uncanny, hein, inquiétante étrangeté. Voilà, donc l'étrange, l'insolite, ce sont les deux notions qu'il utilise davantage que science-fiction. Donc il y a un véritable problème, effectivement, d'identité générique, pas simplement au niveau de la structure, donc nouvelle ou roman, recueil de nouvelles, mais aussi au niveau du genre même du texte.
N'y a-t-il pas aussi une part de rappel historique par rapport à l'intérieur du roman sur tout ce qui s'est passé, par exemple, aux États-Unis, sur le principe de dernière frontière, de colonisation, de ségrégation. La nouvelle sur la fuite des Noirs, par exemple, qui est d'ailleurs temporairement précurseur d'une certaine volonté de droit qu'on remet en perspective et qu'on lit maintenant. On peut trouver ça quand même assez osé de mettre en scène des personnages noirs pour l'époque qui se revendiquent le droit de partir sur Mars et de critiquer le système totalement blanc. Je ne sais pas si quelqu'un veut...
Je peux continuer, mais oui. Je voudrais pas non plus... Non, effectivement, je pense que l'un des aspects importants du texte qui fait qu'il est aussi fascinant à ce niveau-là, c'est son côté subversif, effectivement, sur un plan politique au sens large ou idéologique. Et effectivement, cette nouvelle qui traite du départ des Noirs vers Mars aux grandes dames de ceux qui les exploitent, littéralement, est tout à fait intéressante. On a une peinture de ce qu'on peut appeler le petit blanc du Sud, hein, le raciste du Sud, qui est tout à fait extraordinaire. Donc, en fait, à travers les personnages, enfin, ce rapport entre Mars et la Terre, qui sont finalement les deux grands personnages aussi du récit, on a effectivement une approche satirique de toute la culture américaine et de tous ses travers, évidemment. Bon, je parlais du travers bureaucratique, la tentation totalitaire, dont on sait qu'elle a pu exister, qu'elle existe peut-être encore aux États-Unis, et puis aussi, bien sûr, donc le racisme, tout ce qui est défiance envers l'étranger, hein, l'autre, et évidemment, le martien, c'est l'autre par définition.
Ce qui est intéressant dans l'œuvre de Bradbury, en fait, pour moi, c'est la science-fiction, c'est-à-dire qu'on va utiliser la science-fiction, on va utiliser une littérature qui théoriquement nous emmène ailleurs et demain, en plus on a Gérard avec nous donc profitons-en, nous entraîne ailleurs et demain, alors qu'en réalité c'est le principe de la distanciation romanesque, c'est-à-dire qu'on ne fait que de parler de nous, de l'ici et maintenant, c'est l'ère du temps. Et la grande force de ce texte, on a parlé de la poésie de l'auteur, on a parlé de l'empathie de l'auteur, on a parlé de toute la richesse du livre, mais c'est en plus de s'inscrire sur des thèmes extrêmement universels qu'on continue à reconnaître aujourd'hui. Et les chroniques martiennes aujourd'hui, c'est les problèmes raciaux aux États-Unis, c'est tous les problèmes liés à l'identité nationale, ici chez nous aujourd'hui, etc., etc. Et ça continue encore et toujours sans cesse à parler de nous et toujours de nous. Et c'est pour ça qu'on apprécie ces livres. C'est indépendamment de toute l'immense richesse référentielle qu'il peut y avoir dedans, c'est qu'en plus ça ne parle que de nous. Et ça le fait vachement bien en plus.
Bradbury did write about race throughout his career occasionally, and certainly in The Martian Chronicles. His best short story on the topic of race, though, was a mainstream story published, I think, in Collier's. It was called The Big Black and White Game, and it was about a baseball game played in this small town, and on one team were the black population, and the other team was the white population. And I don't even really want to talk about it because it'll diminish the story. As with all Bradbury's stories, you have to experience the language of it in order for it to work its magic in your mind and change you. And Bradbury's stories do change you, I think. And they've influenced every writer I know, every writer of short fiction. They certainly influenced me. I can't think of any contemporary writers I know who weren't touched in one way or another by Ray Bradbury, and most of them, when they try to talk about him, are just like me now, sort of fumbling. You have to discover him on your own, and it's that, again, it's that connection between language and intent and the sensuality of the world as he imagines it through his filter that makes these stories, in my mind at least, imperishable. And timeless. They just, his old pulp science fiction from the 1940s, his weird tales, stories, you can read them now, and unlike a lot of the stuff that was published in Weird Tales back then, they're not dated at all because they were unlike anything that had ever been written, and they're still unlike anything that had ever been written. He had a lot of trouble getting those stories published originally because the editors didn't understand him. They wanted more H.P. Lovecraft. They wanted more traditional ghost stories. Bradbury was creating a new fantastic literature that I feel changed the face of science fiction and fantasy writing for all time, really.
Oui, il y a une chose qui me frappe et qui manifestement a frappé mon voisin. Dans cette qualité d'écriture, s'il y a une concision dans l'expression extraordinaire. En quelques mots, en quelques lignes, enfin en quelques phrases, Bradbury, et ça c'est, croyez-moi, très difficile à faire, met en place un monde, des personnages, une atmosphère, y compris dans des nouvelles qui n'ont rien à voir avec la science-fiction. Je pense à une nouvelle sur un grand lit espagnol ou italien. Bon. En tout cas, on a l'impression d'être là. C'est d'ailleurs un peu ce genre de texte qui me faisait penser à Steinbeck ou à Saroyan, mais peu importe. Mais il y a une efficacité de l'écriture de Bradbury qui est vraiment quelque chose de tout à fait remarquable, tout à fait extraordinaire. La première nouvelle des Chroniques martiennes, L'été de la fusée, c'est un poème en prose, enfin c'est un pur chef-d'œuvre en soi. Il y a cette idée qui n'a aucun fondement scientifique, mais on s'en contrefou. Elle a une efficacité d'image, enfin, qui est extraordinaire. Enfin, il est allé à l'essentiel.
Are you speaking of the very first text in Rocket Summer, where they're launching rockets from Ohio, of all places? It's sort of ridiculous, but at the same time, it's the way he describes. It's cold in winter in Ohio, and then the rocket takes off, and you have the flame and the melting of the frost on the window panes. It's all this stuff. It's you don't accept it as science fiction. We're launching a rocket from Ohio to go to Mars. You accept it as this incredible prose poem that is unforgettable. It just gets into you.
Une page et demie.
Je trouve que ce début est assez remarquable, effectivement, et effectivement suggère qu'il n'y a aucune volonté de réalisme, en tout cas chez Bradbury, puisque disons l'énergie dégagée par les fusées n'a pas la possibilité de modifier le climat à ce point, en tout cas. Moi, j'ai été frappé aussi par un côté extrêmement inventif. On pourrait parler de, comme certains critiques, de Darko Souvin, un célèbre critique canadien, parle de la science-fiction comme nécessitant l'invention d'un ce qu'il appelle un novum, c'est-à-dire quelque chose de l'ordre du non déjà vu, en quelque sorte. Et je pense qu'il y a des choses qui sont tout à fait intéressantes chez Bradbury à ce niveau-là, qui sont très poétiques. Je pense par exemple aux livres musicaux, hein, c'est-à-dire que le livre, non seulement qu'on lit, mais qu'on effleure et qui littéralement dialogue avec vous, par exemple, ou encore le lit de nuages, le lit de brume, hein, la martienne s'étend sur un lit de brume qui flotte un petit peu en l'air. Alors, ce n'est pas un waterbed américain, hein, mais en tout cas, c'est cette idée de poétisation, effectivement, du quotidien, poétisation de l'ordinaire, avec des objets extrêmement sophistiqués, qui à la fois renvoient à des civilisations anciennes, archaïques peut-être même, et en même temps témoignent d'un futur. Donc il y a une sorte de rétrofuturisme à certains égards aussi dans Chroniques martiennes, qui est tout à fait intéressant. D'où la dimension poétique extrêmement marquée, et un rapport aussi très intéressant à la nature. La nature, d'ailleurs, traduite par ces paysages, et, bon, alors, qui peut être désertique, d'ailleurs. Hein, là, on retrouve presque, sans doute, ça a dû influencer, j'imagine, Frank Herbert pour Dune, les vaisseaux qui sont les sand vessels, enfin, qui parcourent des mers qui sont devenues des espaces sablonneux. Et donc, il y a des vaisseaux qui les parcourent comme des goélettes sur la mer, mais c'est dans le sable. Il y a les montagnes bleues, évidemment, qui deviennent aussi très poétiques. Et les êtres martiens eux-mêmes sont bleutés. Donc, il y a une sorte d'analogie ou d'homologie entre la couleur du paysage et la couleur des créatures. Voilà, quelques exemples de poésie, disons, bradburyenne.
I would just like to add, with all this poetry and such, Bradbury, he didn't write science, he didn't have any technology, but he wasn't a Luddite. He wasn't against science. In fact, he loved it. And he would be at the Jet Propulsion Laboratory where he had many friends, and he would watch the early Mars missions and the moon mission and the rest of it. He was excited about it, and he felt that, in a way, science fiction had created the space program by inspiring real scientists to try to turn into reality these dreams of space exploration. He said when he was young, which was the 1930s, 40s, the idea that anybody would actually go to Mars, or we'd send robotic telepresence, or send men to the moon and all this stuff, it was laughed at. It was Buck Rogers. It was ridiculous. And yet, what did we do? And it's the idea that you have to imagine something before you can actually do it. Bradbury was wonderful at imagining the grand gesture. He didn't have any technology or how we would do this. He just felt that we would do it because we're human beings. Of course we're going to go into space. Of course we're going to go out there. We're human beings. We always are going to move forward. It's what we do. And his writing was so inspirational, not in a technological way. I mean, Arthur Clarke or Asimov or any number of science fiction writers wrote practically about space drives and the rest of it. But Bradbury, I think, inspired people.
On a parlé des influences des auteurs qui ont influencé Bradbury. On a parlé de Chroniques martiennes, mais pour vous, quels sont les auteurs majeurs qui ont été réellement influencés par Ray Bradbury en tant que tel et par Chroniques martiennes?
Je vais prendre la parole tout de suite. Kim Stanley Robinson, quand on lit Les Menhirs de glace d'abord, et puis la trilogie martienne, enfin la tétralogie, la trilogie martienne en 4 tomes pour être plus précis. Bon, là c'est l'hommage clair et direct à Ray Bradbury.
McDonald.
Ouais.
Dans son premier roman.
Desolation Road. J'ai pas entendu.
Je dois dire que je ne sais pas si on m'entend, que j'ai été moi-même très influencé par Bradbury quand je l'ai découvert et que mes premières nouvelles étaient qualifiées de bradburyennes. Je l'ai d'ailleurs rencontré à Paris en 59 ou 60, je ne pourrais plus dire exactement. Assez curieusement, je travaille beaucoup sur l'œuvre de Philippe K. Dick à l'heure actuelle parce que Flammarion Gélu m'a demandé des préfaces pour les omnibus de romans qui paraissent. Et j'ai cru, pour rien affirmer, mais avoir trouvé des traces d'une influence de Ray Bradbury dans certaines nouvelles de Philippe K. Dick. Une demi-douzaine de nouvelles de Philippe K. Dick, pour des raisons de style, et qui sont d'ailleurs pas aberrantes, mais enfin un peu à côté de l'œuvre principale de Philippe K. Dick, j'ai cru avoir décelé une influence bradburyenne. Il y a un autre aspect de son œuvre sur lequel j'aimerais quand même attirer l'attention, c'est que Ray Bradbury est un enfant du New Deal, de l'après-crise, de l'après-grande crise, mais enfin de la terrible période de crise de l'avant-seconde guerre mondiale. C'est un enfant de Roosevelt, en quelque sorte, et c'est un libéral au sens politique américain. Ce qui ne devait pas être facile dans ce milieu, et en particulier dans le milieu de la science-fiction, dans la fin des années 40, enfin, et durant les années 50, qui ont été des années politiquement plutôt dures pour l'Amérique. Donc c'est important de voir que c'est un libéral qui défend la cause des Noirs, mais pas seulement, enfin, qui proteste, comme d'autres écrivains d'ailleurs, je pense à Thornton Wilder, contre le conformisme américain qui qui défend quelque chose d'important et qui ne devait pas être facile à porter à l'époque.
Bradbury influenced a lot of writers, but a couple you may not be too familiar with would be Charles Beaumont and Richard Matheson, who back in the 50s were very enamored of Ray Bradbury, and he sort of took them under his wing. And these guys, I'm sure you wouldn't have heard of Beaumont. He died quite young, but he was an extraordinary short story writer, and he was moving into novels and television, the rest of it. But you probably know his television work, because he and Matheson, along with Rod Serling, wrote most of the scripts for the original Twilight Zone series. And these guys were very influenced by Bradbury's approach. And Matheson has had a huge influence on later writers. Another one I would think of would be Harlan Ellison, who was a little closer to Bradbury's age, but still younger. And these guys, these primarily known as short story writers, really changed the shape of American short fantastic fiction. And they had a huge influence on the cinema and the literature of the magazines in the U.S. that I think made a big difference. And I agree with you about Philip Dick. Philip Dick wrote a lot of short stories. He was very prolific back then. People think of his novels primarily now, but he started out as a short story writer, and everybody in the 1950s wanted to emulate Bradbury. And the very best people were the ones that wrote a lot and discovered their own style, so they were influenced by Bradbury without trying to imitate him. The imitations always came off pretty bad. But the influence and the attention to detail that Matheson and Philip Dick and the rest of them, that shows through, I think.
Je ne sais pas quelle nouvelle fait allusion Gérard Klein, par exemple, de Philippe K. Dick, mais il me semble qu'il y a un motif qui émerge, en tout cas dans les chroniques martiennes, c'est le motif du simulacre, hein, et donc du substitut qui ressemble à l'original, et donc qui permet à Bradbury d'adopter une attitude très ironique vis-à-vis justement des envahisseurs terriens, vis-à-vis des martiens. Puisque dans une des nouvelles, le martien qui voit une fusée arriver avec des terriens, qui essayent de se faire reconnaître comme des grands explorateurs et se faire applaudir par la population martienne, etc., finalement sont totalement tournés en ridicule, on les renvoie de l'un à l'autre, etc., et on finit par les mettre dans un asile de fous, hein, parce qu'on considère forcément qu'ils sont fous. Et l'un des martiens, savants martiens qui les examine, psychanalyste peut-être, je ne sais pas, ou psychiatre en tout cas, ça s'est poussé jusqu'à l'absurde, et c'est ça qui est extraordinaire. Et là, ça confine un peu au... Bon, je ne sais pas si on peut mélanger les deux, mais il y a une dimension surréaliste dans certains des textes. Je crois que l'influence du surréalisme, à la fois pictural et littéraire, est importante. Il finit par trouver que ils sont tellement malades mentaux, parfaits psychotiques, qu'ils sont capables de simuler une existence réelle de la fusée, et que la seule solution, c'est de les tuer pour voir s'ils ne vont pas disparaître au moment où on les tue. Et le personnage du martien s'aperçoit que même mort, le personnage continue à être là, et donc il finit par se suicider lui-même parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Voilà. Donc il y a une sorte de jeu très intéressant sur qu'est-ce que c'est que la réalité, qu'est-ce que c'est que le simulacre, et ça, ce sont des thèmes dickiens aussi, me semble-t-il. Voilà. Et puis peut-être pour rajouter une petite touche, je pense qu'il y a un autre auteur auquel on ne penserait pas nécessairement, c'est James J. Ballard. Parce que par exemple l'idée d'une maison animée ou d'une maison, alors ce que Ballard appellera des maisons psychotropes, hein, dans un de ses textes, c'est quelque chose d'important aussi. Et puis bien sûr le motif de la ruine, qui est également un motif ballardien bien connu, de l'amoncellement des ruines, des ruines de la civilisation mécanique, etc., dans de nombreuses nouvelles, avec les amoncellements de voitures par exemple chez Ballard, le motif de l'avion, etc. Donc je crois qu'effectivement il y a beaucoup de résonance qu'on pourrait aller encore bien au-delà.
De toute façon, c'est quelqu'un qui a changé la science-fiction. Hein. La science-fiction n'est juste plus pareille, après Bradbury. C'est pas exact. Après les premiers textes de Bradbury, parce qu'en plus c'est quelqu'un qui a traversé les époques. Hein. Il a écrit pratiquement jusqu'à la fin. Donc Bradbury, c'est la science-fiction des années 40 aux années 2010 pratiquement. Et il a vraiment tous les auteurs qui ont commencé à le lire et puis ensuite à écrire énormément se sont influencés, plus ou moins influencés par lui, par ses méthodes d'écriture. En tout cas, la science-fiction a changé après les premiers textes de Bradbury.
Vu l'heure approchant, je demanderai bien au public s'ils ont des questions par hasard.
Sinon, moi, je pose des questions au public, hein, je vous préviens.
Oui. Je ne sais pas, je peux juste rajouter une chose qui me paraît vraiment fondamentale et qui rejoint tout ce qu'on a dit sur l'hybridité des genres, etc. C'est quelque chose qui me frappe. Alors, il y a à la fois cette dimension humoristique, ironique, et satirique dont on a assez largement parlé, notamment aux dépens des terriens et de la culture terrienne, de la culture américaine plus précisément, et des rednecks, etc., ou des bourgeois conformistes, des religieux, des bigots religieux, etc. Il y a aussi cette dimension-là. Mais il y a aussi on va dire un imaginaire crépusculaire, un imaginaire de la mort, un imaginaire spectral. Je ne sais pas si vous avez remarqué le nombre de spectres qu'il y a dans le texte, des spectres aussi bien martiens d'ailleurs que terriens. Donc je pense que la question de la spectralité est absolument fondamentale dans l'œuvre.
Aucune question.
Il y a une nouvelle, parmi d'autres, parce qu'il y a toutes sortes de nouvelles absolument extraordinaires, mais une nouvelle qui m'a particulièrement frappé, qui s'appelle The Welt. C'est l'histoire d'enfants dans une garderie, enfin dans une pièce qui leur est réservée, et qui se trouve dans un environnement enfin, qui leur plaît, qui est celui d'une jungle. Bon, et les parents finissent par être victimes de cette jungle, ce qui pour le psychologue est intéressant quant aux relations entre enfants et parents. Mais surtout, ce que cet auteur, qui n'a donc aucune prétention technico-scientifique, décrit parfaitement, ce sont nos environnements virtuels. C'est assez prodigieux. Et souvent, chez Bradbury, chez d'autres aussi, mais chez lui en particulier, on a ce télescopage, en quelque sorte, entre le futur du passé qu'il décrit et puis notre présent. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a un désir. Et ce désir, il se réalise parfois.
Moi, ce que j'aime beaucoup aussi dans ce texte-là, c'est l'absence totale de conformisme de la part de l'auteur ou son refus d'édulcorer les choses. Il y a une nouvelle qui n'est pas la plus importante du recueil, mais qui m'a toujours beaucoup plu, que j'ai mis 10 minutes à retrouver. Je ne me souvenais plus du nom. C'est Les Villes Muettes. D'ailleurs, je remercie Gilles, à qui j'ai piqué le bouquin tout à l'heure. Les Villes Muettes, qui est une petite nouvelle de rien du tout, qui met en scène sur Mars, on ne sait pas trop où, dans une ville totalement déserte. On ne sait pas si l'humanité est morte, si ce sont les derniers hommes sur Mars ou pas. C'est ce qu'induit le texte, en tout cas. Qui met en scène un type, il n'y a plus personne, quoi, il est le dernier homme sur Mars. Hein. Il vit dans un hôtel, de luxe évidemment, les bars, les restos sont tout automatiques. Enfin, il vit la grande vie et le téléphone sonne. Un téléphone sonne dans une maison lointaine, il court pour essayer de décrocher, mais évidemment il n'y arrive pas. Et au bout d'un moment, il voit la fréquence de téléphone et il commence à supposer qu'en s'installant dans certains endroits, il pourra peut-être être là où il le faut. Et le téléphone sonne une nouvelle fois, un téléphone sonne en ville une nouvelle fois, il réussit à décrocher, et ce n'est pas un robot, ce n'est pas un appel automatique en face, c'est une voix de femme. Allô, qui est à l'appareil ? Et en fait, il y a un deuxième survivant sur Mars, c'est une femme. Donc ils vont se rencontrer tout de suite, et là, c'est là où on ne va pas dans le côté hollywoodien des choses et dans le côté édulcoré, elle est atroce. Elle n'est pas très belle, elle est tyrannique et tout. Et avant même, c'est la première rencontre. Il commence à peine à se parler, elle le traite d'idiot régulièrement et tout. Et le texte est très beau parce que c'est peut-être Adam et Ève, c'est peut-être eux dont on a besoin pour que l'humanité redémarre. J'ai quelque chose à vous dire, Geneviève.
Oui, quoi ?
Adieu ! Et il monte dans sa voiture, il s'enfuit et il va s'installer dans une autre ville et de nouveau le téléphone va sonner et la dernière phrase, et à chaque fois que le téléphone sonne, il ne décroche pas. Ça, c'est beau.
Bradbury had another great telephone story set on Mars. This one was pretty Phil Dickian. There's an atomic war on Earth. Everybody goes back home, you know, to deal with that situation. This guy gets left behind. He's all by himself, right? He starts recording his own voice into this computerized telephonic system at different ages, because he's there for the rest of his life. He's waiting for somebody to come back and rescue him. They never come. So he starts out as a young man, and by the time he's in his 70s, the phone starts ringing, and it's him calling himself from different ages that he's spent all this time alone on Mars, and the computer has transmogrified his personality and become a personality of its own that's reflective of him. So now he has company in his later years, and it's himself. It was really a fantastic story. And the last thing I'd like to say about Mars and Ray Bradbury is when we first started exploring Mars robotically with the Voyager missions and the rest of it, he was interviewed and he was asked, are you disappointed in the real Mars, you know, because it's just all desert, there's no water, there's probably not even any microbial life, there aren't any Martians. And he just laughed. He says, there are Martians. It's us. We're there now because we imagined we could be there. Now we are. We are the Martians. He wasn't disappointed at all. He wasn't naive. He never imagined there were canals filled with sparkling water and all these cinnamon dust and mountains and the rest of it. He knew that. But he also knew that in order to get someplace, you had to imagine it first.
Compléter un petit peu ça. Effectivement, la dernière nouvelle, autant que je me souvienne, c'est justement une famille qui s'installe sur Mars, en quelque sorte, et le petit garçon dit à ses parents, alors on va voir des Martiens. Et les toutes dernières lignes de la nouvelle, ça se termine par, je vais te montrer des Martiens. Et la famille se penche sur l'eau des canaux, justement, et voit dans le miroir, non pas des Martiens, mais eux-mêmes. Donc ce sont eux qui sont les Martiens. Le moi, en quelque sorte, le sujet est devenu l'autre et vice-versa. Donc là aussi, le motif du miroir, évidemment, tout à fait important dans le texte.
Et je pense que c'est une belle conclusion de fin, à la fois du livre, mais aussi de cette conférence. Je ne sais pas, je vais redemander une dernière fois s'il y a des questions, comme il nous reste à peu près 5 minutes.
Allez, soyez chic, sinon il ne va pas être payé.
Non, même pas.
Ah, si, il y en a une autre question, oui, monsieur.
Même deux.
Ah ben, on n'a plus le temps. Hein. Oui. Honneur aux dames.
Bah, vous avez dit que Bradbury était un auteur de littérature qui s'était emparé de la science-fiction. Et vous avez dit aussi qu'après Bradbury ou avec Bradbury, toute la SF change. Est-ce que ça veut dire qu'il y a plus d'auteurs dits littéraires qui se sont emparés de la SF ? Est-ce que ça veut dire que les auteurs de SF se sont mis à mieux écrire, enfin bon.
Ben, ça veut dire que ça élargit le champ des possibilités de la science-fiction, parce que tant au niveau de l'écriture que des thématiques, les auteurs ont pu faire tout à fait autre chose, oui, ça veut dire ça, je pense. Mais il y avait déjà d'autres auteurs contemporains à Bradbury qui faisaient ça, hein. Des gens comme Sturgeon et quelques autres aussi. Il est pionnier dans le sens où c'est tellement extraordinaire ce qu'il écrit, mais c'est vous savez, les genres littéraires, pour que ça sorte du cadre restreint finalement des amateurs d'un genre, il faut que le genre littéraire se nourrisse à la fois de thématiques, qui sont les thématiques contemporaines à toute forme de littérature, enfin à toute forme d'art, et se nourrisse également, s'enrichisse de l'écriture des autres. Et là, c'est ce que Bradbury a été peut-être pas un des premiers à faire parce qu'ils étaient plusieurs, mais en tout cas c'est lui qui l'a fait le mieux. C'était un auteur très populaire, hein, très apprécié aux États-Unis, et quand ses livres sortaient, ils étaient lus par des gens qui n'aimaient pas forcément la science-fiction, et donc ça a ouvert effectivement des portes à d'autres écritures et tout. Et oui, la science-fiction s'est améliorée, je pense, dans un sens, même si on aime bien aussi la science-fiction de l'époque, hein. C'est pas incompatible.
I think what Bradbury did, when Christopher Isherwood reviewed the Martian Chronicles very positively, and suddenly Bradbury stepped out of the ghetto that everybody was used to being in, This showed other writers with literary ambition that they could do other things. They didn't have to just be restricted to the pulp science fiction markets of the day, if they were strong enough to pick up the challenge. Not everybody was interested in that. Science fiction has been described as a ghetto, and a lot of people, even to this day, are happy to remain inside of it, and they like to separate it. This is science fiction. That's mainstream literature. You know, we're the outsiders. We're the different ones, and we're somehow superior to all that. We don't need all that. Bradbury strode between worlds. He didn't disdain science fiction. He didn't disdain literature. What he disdained was mediocrity and dull writing. But you could find great writing anywhere. And he showed us that you could certainly find it in science fiction.
Il y avait une question là-bas au fond.
Allô? Ça marche? Oui. Vous avez dit que Ray Bradbury était un libéral. Alors, quelles étaient ses relations avec Campbell, John Campbell, le rédacteur en chef d'Astounding?
Je n'en ai pas la moindre idée. Je ne crois pas que Bradbury ait jamais rien publié dans Astounding ou Analogue. Donc, il n'y a pas de raison non plus de penser que leur relation était particulièrement mauvaise. Ils étaient de point de vue et de sensibilité très différentes, surtout en ce qui concernait l'écriture de la science-fiction et sa thématique. Cet aspect libéral au sens américain du terme du personnage et de l'heure me paraît quelque chose de très important à une époque où ça ne devait pas être facile.
Vu qu'il est 16h et qu'il y a d'autres conférences juste après, nous allons vous laisser, vous remercier d'être venu. Pour ceux qui utilisent des casques, pensez à les ramener au point où vous les avez pris pour qu'ils puissent se recharger. Et nous vous souhaitons une bonne fin de journée, une bonne fin de festival.